Comment habiter un lieu? Comment s'y tenir, y exister, y vivre, y demeurer? Question essentielle car les lieux ne sont pas seulement des territoires, des espaces, des coins du monde à conquérir, à posséder, à s'approprier ou à investir. Les lieux peuvent être des corps, des paysages, des récits de famille, des mémoires ou une histoire. Dès lors, comment les habiter ces lieux-là? Comment s'y sentir chez soi, y trouver sa place? Ces questions essentielles, mes trois invités du jour les posent chacune à leur façon. Sophie Fontanel, dont nous tracerons le portrait en seconde partie avec son roman Une apparition, publié aux éditions Robert Laffont. Et dès maintenant, avec Alice Zeniter et Kauter Adimi, bonjour et bienvenue à vous deux.
Bonjour.
Alors Alice Zeniter, votre roman c'est L'art de perdre, il paraît aux éditions Flammarion. Kauter Adimi, votre roman quant à lui c'est Nos richesses et il sort aux éditions du Seuil. Et ce qui nous a donné envie de vous réunir toutes les deux sur ce plateau aujourd'hui, c'est que vos deux romans traitent, ou pas traitent, mais en tout cas font part de l'Algérie. Quelle place occupe pour l'une et pour l'autre l'Algérie dans vos romans? Alice Zeniter.
Je pense que pour moi, dans l'art de perdre, l'Algérie est multiple, puisque au fil des trois parties, elle va avoir des sens extrêmement différents. Dans la première partie qui se passe en Algérie, l'Algérie française, l'Algérie colonisée, c'est réellement le décor, c'est les montagnes, c'est l'olivier, c'est l'endroit dans lequel vit Ali avec sa famille. Dans la deuxième partie, ça va devenir le pays perdu dont on ne parle pas, et donc et ce nom va tout à coup devenir une sorte de nuage noir dans lequel il y a à la fois toute la nostalgie et en même temps cette peur, ce pays où on a peur de retourner. Et puis dans la troisième partie, pour la troisième génération, ça va être simplement synonyme au départ des gâteaux de la grand-mère, des teintures aux aînés, de cette fréquentation de quelques signes. Mais ça ne va rien avoir à faire avec le pays réel.
C'est ce que chacun y voit, ce qu'il a à faire avec les histoires de chacun, de cette fresque familiale que l'on suit sur trois parties.
Oui, et donc finalement, on voit que pour tous les personnages, même au-delà des générations, pour les différents personnages qui interagissent avec la famille centrale, l'Algérie est le nom de choses différentes. Quand ils disent l'Algérie, ils pensent à des choses différentes et ils pensent qu'ils se comprennent. Et en fait, probablement pas.
En fait, c'est moins un pays qu'un nom, l'Algérie. C'est vraiment un nom.
C'est ça, c'est un nom, c'est un fantasme, c'est un rêve, c'est un trou, c'est un manque, c'est une carte postale vieillie, c'est tout ça à la fois.
Dans votre cas, Kauter Adimi, enfin dans le cas de Nos richesses, c'est moins l'Algérie qu'Alger et qu'un lieu en particulier.
Tout à fait. Si l'Algérie est un nom pour Alice, moi en tout cas dans mon roman, l'Algérie est un lieu. Et c'est... Alors oui, effectivement, je parle beaucoup d'Alger, plus que de l'Algérie au sens large, parce qu'une bonne partie de l'histoire se passe à Alger. Mais je parle surtout de l'importance des lieux. Et une des phrases importantes de mon livre, c'est quand je dis que ce sont les lieux qui nous habitent et non pas le contraire. Et l'Algérie, elle a une signification en tant que lieu très différente en fonction des personnages. Pour Edmond Charlot, puisqu'une partie du roman, ce sont des carnets imaginaires d'Edmond Charlot.
Il faut que vous nous disiez qui est Edmond Charlot.
Ça va être très difficile de vous dire qui est Edmond Charlot en quelques phrases. Edmond Charlot, c'est le grand éditeur de la France libre. C'est celui qui a découvert Albert Camus, qui est le premier éditeur d'Albert Camus. C'est un grand libraire, ce qui a ouvert une librairie à Alger dans les années 30 qui s'appelle Les Vraies Richesses, d'où le titre de mon roman. C'est quelqu'un qui a été éditeur aussi à Paris. C'est un homme exceptionnel. C'est lui qui a inventé, par exemple, la quatrième de couverture. Si aujourd'hui, on a des quatrièmes de couverture dans les livres en France, c'est grâce à Charlot. C'est lui qui a fait la première quatrième de couverture dans l'édition française. Et Edmond Charlot, c'est un jeune homme qui, à 21 ans, va ouvrir une librairie slash maison d'édition slash bibliothèque. Donc, un tout petit lieu au cœur d'Alger qui existe toujours. Et j'ai eu envie d'imaginer l'histoire de raconter d'abord l'histoire de ce lieu et puis d'imaginer l'histoire de ce lieu aujourd'hui en 2017. Donc le lieu à travers les années, puisque c'est l'Algérie des années 30, 40, 50, 60. Et puis on fait un bond dans le temps et on arrive à l'Algérie des années 2000 avec l'histoire d'un quartier à Alger et la rencontre de deux hommes de générations différentes.
Voilà. Dans vos deux romans, Alice Zénitaire et Kauter Adimi, il y a effectivement cette dimension temporelle qui est incontournable parce qu'on suit une famille sur plusieurs générations, parce qu'on suit une librairie aussi dans à des âges différents qui se superposent. Et puis, il y a aussi ces deux termes qui apparaissent dans vos titres, à savoir perdre pour l'art de perdre, votre roman Alice Zénitaire, et Nos richesses, donc qui est inspiré du nom de cette librairie, Les vraies richesses, et donc d'un titre de roman de Jean Giono. Mais finalement, entre les richesses et le fait de perdre, vos romans peuvent se répondre, mais l'art de perdre, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus positif qu'on peut penser à Alice Zénitaire, et Les vraies richesses, c'est aussi la disparition d'une librairie. Comment ces deux termes peuvent faire écho selon vous? Kauter Adimi, lancez-vous.
En tout cas, sur les vraies richesses, moi, je... Alors évidemment, il y a la référence du titre de Giono qui était voulu par Edmond Charlot. Parce que Edmond Charlot, quand il ouvre sa librairie, il écrit un mot à Jean Giono et lui demande l'autorisation d'appeler sa librairie maison d'édition Les vraies richesses. Et Giono en est très honoré et évidemment accepte. Et moi, j'appelle mon roman Nos richesses, donc en référence à cette librairie, mais pas que. C'est aussi en référence à l'Algérie, parce que si vous tapez l'Algérie, si vous dites l'Algérie, les richesses de l'Algérie, vous allez penser pétrole et soleil. Et moi, mon roman est en opposition absolue à ces deux termes.
Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'à Alger, il ne fait que pleuvoir.
Il ne fait que pleuvoir, il fait très froid. Je voulais m'extraire de ce cliché permanent qu'on nous renvoie. Alger, le soleil, les palmiers, etc. etc. Pour moi, l'Algérie, c'est pas du tout ça. Alors, c'est mon pays, donc je serai jamais objective à son égard. Mais en tout cas, je voulais m'extraire du soleil, je voulais m'extraire du pétrole. Et pour moi, les richesses, c'était la mémoire, c'était l'histoire, c'était la culture, c'était la littérature, c'était tout ce qui nous entoure vraiment. Vraiment, la terre, les airs, les multiples petites histoires qui font la grande histoire. Et en ça, je trouve que peut-être il y a un écho avec le livre d'Alice, qui, elle, va parler aussi de l'histoire, de la mémoire, des petites histoires qu'elle raconte dans cette saga familiale. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question stricto sensu des titres. En tout cas, j'aime bien cette idée d'écho, de richesse, d'histoire qu'on a toutes les deux évoquées dans nos livres.
C'est vrai que pour moi, l'art de perdre... c'est l'art de perdre ces richesses se situent à des niveaux extrêmement différents. C'est-à-dire que pour Yema, quand elle va quitter l'Algérie, ça va être la perte de ses bijoux, dont tout à coup, c'est ça qui va ressurgir des années plus tard. Cette terreur, cette tristesse d'avoir laissé des bijoux là-bas et que une femme moins belle qu'elle les porte, alors que c'était eux qui faisaient d'elle une reine. En même temps, pour Ali, son mari, ça va être la perte de la montagne et la perte du statut social qui faisait de lui un notable de village, l'homme sage, le pourvoyeur, pour devenir un ouvrier maghrébin en France qui se retrouve tout en bas de la hiérarchie. Pour la grande histoire, ça va être la perte de l'Algérie en entier, c'est-à-dire ces départements français qui tout à coup deviennent indépendants. Et il faut apprendre à perdre tout ça. Et le titre, donc celui de Kauter est un écho à Giono, et le mien est un écho à Elisabeth Bishop, qui a écrit ce poème qui est à la fois d'un
que
humour
vous citez à la
très...
fin de votre roman,
exactement, mais... qui est à la fois d'un humour très piquant et d'une tristesse profonde, et qui dit dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître, et ce qui commence avec cet état d'esprit a priori zen, nous pouvons tous arriver à perdre, etc., finit par la poétesse se forçant, se disant, mais vas-y, écris-le, c'est un désastre. J'ai perdu l'homme que j'aimais, j'ai perdu la montre de ma mère, deux maisons, un pays, des rivières, etc. Et voilà, et c'est la perte déclinée du plus petit au plus grand, et la tentative en permanence de surmonter ça pour continuer à avancer, puisque nous sommes tous en mouvement. Bien sûr, si j'écrivais l'histoire de Naïma, ça ne commencerait pas par l'Algérie. Elle naît en Normandie, C'est de ça qu'il faudrait parler. Des quatre filles de Hamid et Clarisse qui jouent dans le jardin, des rues d'Alençon, des vacances dans le Cotentin. Pourtant, si l'on croit Naïma, l'Algérie a toujours été là, quelque part. C'était une somme de composantes, son prénom, sa peau brune, ses cheveux noirs, les dimanches chez Yema. Ça, c'est une Algérie qu'elle n'a jamais pu oublier puisqu'elle la portait en elle et sur son visage. Si quelqu'un lui disait que ce dont elle parle n'est en rien l'Algérie, que ce sont des marqueurs d'une immigration maghrébine en France dont elle représente la seconde génération, comme si on n'arrêtait jamais d'immigrer, comme si elle était elle-même en mouvement, mais que l'Algérie est par ailleurs un pays réel, physiquement existant de l'autre côté de la Méditerranée, Naïma s'arrêterait peut-être un moment et puis elle reconnaîtrait que, oui c'est vrai, l'autre Algérie, le pays, n'a commencé à exister pour elle que bien plus tard, l'année de ses 29 ans. Il faudra le voyage pour ça. Il faudra voir Alger apparaître depuis le pont du ferry pour que le pays ressurgisse du silence qu'il l'avait masqué mieux que le brouillard le plus épais.
Zenita, vous venez de lire un extrait de L'Art de perdre, c'est le début, tout commence avec Naïma, ce personnage qui, pour qui tout à coup, tout commence à 29 ans avec la naissance de l'Algérie. Mais quelle Algérie ? On a parlé de l'Algérie qui représente plusieurs choses pour vos personnages, mais il y a ce terme de silence et finalement, tout votre livre va développer cette capacité ou du moins cette recherche à essayer de combler ce silence.
Oui, du coup, le livre a un procédé un peu particulier puisque le lecteur en sait toujours plus que les personnages. Et la narration passe son temps aussi à rappeler au lecteur que oui, peut-être si les personnages d'après avaient ces cartes en main, ce serait plus facile pour eux, mais que ça n'a jamais été dit. Ou alors que voilà, un petit bout est passé dans le récit, il a été déformé, ou alors que c'est moi, écrivain, qui l'invente puisque personne ne l'a jamais raconté, mais qu'en tout cas, le fait que le lecteur, lui, ait 500 pages n'ôte rien au silence qui passe de génération en génération et dont Naïma hérite avant d'essayer de le combler par énormément de choses, par de la recherche, en se plongeant dans la lecture de livres et puis finalement en partant elle-même en Algérie et en faisant devenir un pays ce qui n'a été qu'un nom. Un nom omniprésent et pesant.
Finalement, dans vos deux romans, Alice Zeniter et Kauter Hadimi, il y a cette idée que les personnages sont sans cesse dans la recherche de quelque chose, sans forcément le dire. Par exemple, Naïma est à la recherche de son identité. Elle essaye de voir si finalement elle peut se définir par le fait d'avoir des origines algériennes. Et dans votre roman, Kauter Hadimi, on croise plusieurs personnages où on se demande jusqu'où aussi ils sont déterminés par le lieu dans lequel ils vivent.
Oui, le premier, c'est Edmond Charlot. Edmond Charlot, il est né en Algérie. Avec une famille qui arrive en Algérie en 1830. Donc il se définit, lui, par la Méditerranée. Ça va même au-delà de l'Algérie. Pour lui, il est algérien et il est méditerranéen. Et d'ailleurs, toute son histoire littéraire, c'est son combat, c'est d'essayer de publier, de promouvoir des écrivains de la Méditerranée, sans distinction d'origine, de langue, etc. Et en cela, il est très intéressant, puisque dans une des correspondances que j'ai retrouvées de Charlot...
Mais parce que vous aussi, toutes les deux, vous avez fait des recherches, beaucoup de recherches pour vos romans. Vous nous en direz deux mots juste après.
Après 62, enfin, Edmond Charlot va faire beaucoup d'allers-retours entre l'Algérie et la France dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'installe en France, puis revient en Algérie après la faillite de sa maison d'édition. Et après l'indépendance de l'Algérie, il travaille un peu à la radio. Puis la radio est récupérée par l'État algérien, tout nouveau État algérien. Il part vivre en France où il fait de la radio. Et dans une des lettres, post-62, donc bien après l'indépendance, dans une des lettres, moi, qui m'a vraiment touchée et marquée, quelqu'un qui travaille avec lui écrit...
on pense tous que vous seriez plus heureux dans votre pays, un poste se libère en Algérie. Et donc, on lui dit bien votre pays, c'est-à-dire que malgré l'indépendance, malgré le départ de beaucoup de Français de l'Algérie, etc., on considère quand même que Edmond Charlot n'est pas à sa place en France, c'est pas chez lui. Et on lui dit, en fait, vous serez quand même plus heureux chez vous, là-bas en Algérie. Et Edmond Charlot revient, du coup, en Algérie, dans une autre fonction, il revient vivre en Algérie après l'indépendance. Et donc, il est totalement habité par ce lieu-là, et il est, et c'est impossible de le déterminer par la nationalité avec laquelle il va, enfin, il meurt en France, il meurt comme Français, il était Français de nationalité, mais je pense que ça serait une erreur de le déterminer ainsi, de dire Edmond Charlot, Français, Edmond Charlot, moi, dès qu'on dit Edmond Charlot, je pense Debis, rue Hamani, je pense Algérie, je pense
c'est Méditerranée. L'adresse de la librairie.
Exactement, et je pense Méditerranée, c'est un homme de la Méditerranée.
Alice Zeniter.
Oui, moi, il y a quelque chose qui m'a étonnée dans le livre de Kauter, ou en tout cas où je me suis dit, ah, ça, c'est probablement la grande différence avec le mien, c'est cette possibilité de parler à la première personne du pluriel et d'avoir un nous. Où finalement, moi, je traite de personnages qui sont en permanence en train de se dire que il y a eux contre nous et ils sont jamais sûrs de qui ça désigne et de où ils se situent et c'est probablement toujours au milieu. Alors que chez toi, il y a un nous qui est
très fort, qui est imposé. Etc. Mais c'est marrant, c'est moi, la fin de ton livre, quand Naïma a cette discussion où elle dit, je pensais qu'en arrivant à Alger, il se passerait quelque chose, en tout cas j'aurais une évidence où je ressentirais quelque chose, et on lui dit non mais c'est pas possible,
t'auras pas d'évidence,
ça passe pas par le sang, s'il n'y a pas de mémoire, il y a un oubli finalement, etc. J'ai vraiment pensé à ce nous en fait, qui finalement ne peut pas s'inscrire pour Naïma, parce qu'elle est très hésitante, elle n'est pas sûre finalement que cette histoire, elle lui appartienne à 100%, etc. Donc il y a une vraie quête, une vraie recherche, même si ce n'est pas un roman d'apprentissage comme c'est dit à la fin, mais moi je trouve que c'est quand même un demi-nous ce n'est pas un nous, moi j'ai voulu de ce nous très fort qui raconte, parce que je trouve que c'est l'histoire, enfin l'histoire commence ainsi, c'est-à-dire c'est les habitants de la ville au début qui disent nous, et ensuite c'est les Algériens, les Indigènes, les Arabes, etc., qui disent nous, mais parce qu'on ne les écoutait pas beaucoup à cette époque-là, et qui reprennent la parole et qui racontent leur histoire, et ce nous du coup il est extrêmement important, moi, dans mon livre. C'est un, le nous, c'est un personnage à part entière dans mon roman.
Il y a cette idée du nous et de l'identité qui est flottante dans le cas de Naïma, d'Ami, d'Ali dans votre roman Alice Zeniter. Et puis, il y a quand même aussi ce nous qui est très important, comme vous le dites, Kauter Adimi. Et finalement, vos personnages principaux, on pourrait presque dire que ce sont moins eux que les relations qu'ils tissent autour d'eux. C'est-à-dire tout ce qu'ils représentent. Edmond Charlot, c'est toute la culture qu'ils représentent. Albert Camus, ce lieu en fait qui charrie tout un imaginaire, des passages, il y a des traces. Parce qu'un des récits qui compose votre roman, Kauter Adimi, c'est celui de Riyad qui doit vider cette librairie. Finalement, il retrouve toutes les traces, toute cette histoire. Et sans cesse, dans vos deux romans, il me semble que c'est plutôt la relation que l'identité qui est intéressante, à savoir tout ce qui se noue autour des personnages et à partir des personnages.
Oui, parce que Riyad, Kauter en soi, c'est un personnage qui peut être un peu... Enfin, un peu difficile à comprendre, un peu fade. C'est un jeune homme, il a 21 ans, il doit revenir à Alger vider une librairie.
Pour faire un stage.
Pour faire un stage, parce qu'il n'a pas réussi à en trouver un en France, mais il n'a aucune envie d'être à Alger. Il est amoureux d'une jeune femme qui est en France. Puis il n'aime pas lire, c'est pas du tout... Enfin, il déteste lire. Et en ça, moi, je voulais quelqu'un qui a grandi en Algérie, qui n'a jamais été poussé à la lecture. On ne lui a jamais expliqué que la lecture, c'était important. Et il se retrouve dans ce minuscule endroit, cette librairie au début de la rue Hamani, et doit vider les lieux et se débarrasser de tous les livres parce qu'on va en faire une boutique où on va vendre des beignets. Et lui, ça lui est égal. Il ne se révolte absolument pas contre ce sort. Même à la fin, il ne se révolte pas. Il a une prise de conscience. Mais effectivement, ce qui est intéressant avec Riyad, c'est qu'il fait la rencontre d'Abdallah, qui a été le dernier préposé auprès de cet endroit, qui a été mis à la porte du lieu. Ça a été le dernier gardien du lieu. Et il va y avoir une espèce de discussion socratique entre les deux tout au long du roman, dans l'Algérie d'aujourd'hui, dans ce quartier-là, où Abdallah essaye de pousser Riyad à la réflexion, à essayer de comprendre que la fermeture d'un lieu pareil, ce n'est pas quelque chose d'anodin, que c'est un drame, que de ne pas savoir ce qui s'est passé dans ce lieu, c'est un drame aussi, parce que dans ce lieu, il y a eu plein d'histoires, parce que ça a été un lieu qui a été au cœur de la ville, qui a donné naissance à plein d'auteurs assez incroyables du XXe siècle, et parce que dans ce lieu, un jour, un homme, il y a très longtemps, a essayé de construire une maison d'édition, une librairie, qui a essayé de vivre ses rêves. Et vraiment, et Abdelhaye, il pousse Riyad à cette discussion-là. Et la rencontre entre ces deux hommes, effectivement, elle est beaucoup plus importante que les personnages en eux-mêmes. Parce que c'est cette rencontre, c'est la confrontation entre deux époques, deux générations, deux hommes que tout oppose. Riyad, il a fait des études. Abdelhaye, il a appris à lire sur le tard. Il a un rapport au livre qui est presque de l'ordre du sacré. Il ose à peine toucher les livres. Pour lui, c'est extrêmement sacré. Riyad, il les balance par terre. Il s'en fiche. Et c'est toute cette rencontre qui, en fait, va me permettre à moi de poser la question du livre, de la littérature, de la culture et de la mémoire en Algérie aujourd'hui.
Vous aussi, il y a ces moments de rencontre de tous les personnages en fait qui structurent votre livre Ali Zeniter.
Oui, parce que quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai beaucoup lu les travaux de Bourdieu et de Sayad sur l'Algérie, sur la fin de l'Algérie rurale. Et Bourdieu dit cette chose à propos d'écrire des biographies. Il dit, en fait, on peut essayer de faire une sorte de voyage vertical dans quelqu'un en se disant, mais pourquoi est-ce que cette personne a fait ce choix-là, en essayant de se mettre à sa place, dans sa tête.
Faire de la psychologie.
Exactement.
Finalement.
De faire une dissection des rouages psychologiques. Et il dit, l'autre chose, c'est de faire ce voyage à l'horizontale et d'analyser sa place, en fait, parmi les autres humains qui l'entourent, à la fois dans la hiérarchie, à la fois dans des rapports plus doux, d'amour, d'amitié. Et donc, par exemple, pour moi, Ali, il était beaucoup plus compréhensible si, au lieu d'analyser ce qui lui passait par la tête, je considérais quelle place il avait par rapport au caïd, par rapport au sergent de l'armée française, par rapport à Claude, qui est l'épicier de Palestro, qui est un pied noir, qui s'imagine avoir la plus grande ouverture et qui, en même temps, jamais ne fera entrer chez lui un indigène. Il les garde tout le temps dans la boutique, dans l'espace public, jamais on peut passer au salon. Et pourtant, pour Claude, c'est de l'amour. Dans la seconde partie, Hamid, il est lui aussi déterminé par le regard que l'assistante sociale a sur sa famille, sur tout ce qu'elle projette sur lui, par le fait que les Algériens, immigrés algériens, ayant la nationalité algérienne, le considère comme un traître puisque son père est assimilé aux Harkis et que donc eux sont français et collabos aux yeux des partisans du FLN. C'est toujours le réseau des relations humaines qui permet, je trouve, de comprendre mieux un personnage plutôt que une plongée un peu avec des œillères dans le fait que un homme tout seul pourrait se traverser de part en part sans lien avec les autres.
Et éviter de penser l'identité en termes rigides, mais plutôt en termes de mouvement et de flottement.
Moi, je ne crois pas du tout à cette idée d'une identité qui serait une essence qu'on aurait à la naissance et qui ensuite n'évoluerait pas. Enfin, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement plastique.
Ou qui nous apparaîtrait avec un pays, par exemple.
Oui, je ne crois pas non plus qu'il y ait une épiphanie où tout à coup on se dise « mais voilà ce que je suis !» et puis c'est ancré, et puis ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, l'histoire s'arrête. Non, c'est une construction permanente, c'est une lutte permanente contre ces déterminismes ou pour certains déterminismes qu'on accepte. Et donc, oui, les rencontres, évidemment, jouent un rôle formateur énorme.
Et les non-rencontres aussi, si je peux me permettre, parce que d'ailleurs, moi, c'est un truc qui m'a frappé dans ton livre, c'est tu donnais cet exemple, effectivement, de l'épicier, des enfants qui jouent en bas, mais qui ne montent quasiment jamais dans la maison, mais aussi cette non-rencontre entre les communautés, puisque que ce soit dans ton livre ou moi dans le mien, les communautés pendant l'occupation française ne se rencontrent pas, elles se croisent, mais ne se rencontrent jamais, et ça a été bien Edmond Charlot, moi, une des premières interrogations que j'ai eues quand j'ai commencé à faire mes recherches dessus, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas publié d'auteurs algériens à l'époque, enfin dans les années 30-40, de langue arabe, puisque lui était extrêmement ouvert à la langue arabe. Son rêve, c'était de publier des livres en français, en anglais et en arabe en même temps. Donc il était déjà très moderne dans sa réflexion. Mais en fait, il l'explique lui-même en disant « mais je ne les connaissais pas et on ne se rencontrait pas ». Et même, même pour un homme aussi ouvert que l'était Edmond Charlot, en fait, les communautés ne se croisaient pas. Et ça, je trouve que dans la question des rencontres et la non-rencontre, est aussi fondamentale dans la manière de comprendre l'histoire et les histoires de nos personnages.
Oui, tout à fait. Thank you.
Dès votre arrivée à Alger, il vous faudra prendre les rues en pente, les monter puis les descendre. Vous tomberez sur Didouche Mohad, traversé par de nombreuses ruelles, comme par une centaine d'histoires, à quelques pas d'un pont que se partagent suicidés amoureux. Vous grimperez les rues, pousserez les lourdes portes en bois qui ne sont jamais fermées à clé, caresserez l'impact laissé sur les murs par des balles qui ont fauché syndicalistes, artistes, militaires, enseignants, anonymes, enfants. Des siècles que le soleil se lève au-dessus des terrasses d'Alger et des siècles que nous assassinons sur ces mêmes terrasses. Prenez le temps de vous asseoir sur une des marches de la Casbah, écoutez les jeunes musiciens jouer du banjo, devinez les vieilles femmes derrière les fenêtres fermées, regardez les enfants s'amuser avec un chat à la queue coupée. Et le bleu au-dessus des têtes et à vos pieds. Le bleu ciel qui plonge dans le bleu marine, tache huileuse s'étirant à l'infini. Que nous ne voyons plus, malgré les poètes qui veulent nous convaincre que le ciel et la mer sont une palette de couleurs prêts à se parer de rose, de jaune, de noir. Oubliez que les chemins sont imbibés de rouge, que ce rouge n'a pas été lavé et que chaque jour nos pas s'y enfoncent un peu plus. À l'aube, lorsque les voitures n'ont pas encore envahi chaque artère de la ville, nous pouvons entendre l'éclat lointain des bombes. Mais vous emprunterez les ruelles qui font face au soleil, n'est-ce pas ? Vous parviendrez enfin rue Hamani, l'ex-rue Charras. Vous chercherez le 2 bis que vous aurez du mal à trouver, car certains numéros n'existent plus. Vous serez face à une inscription sur une vitrine. Un homme qui lit en vaut deux. Face à l'histoire, la grande, celle qui a bouleversé ce monde, mais aussi la petite, celle d'un homme, Edmond Charlot, qui en 1936, âgé de 21 ans, ouvrit la librairie de près les vraies richesses.
C'est le tout début de votre livre, Kawtar Hadimi, que vous venez de lire. On y entend l'importance du mouvement. Vous invitez complètement votre lecteur à pénétrer dans ces rues à Alger. Et on sent tout ce qu'on disait à l'instant sur cette idée, cette importance du mouvement.
Tout à fait. Et je l'ai vraiment construit comme ça, ce roman, avec l'idée d'une invitation du lecteur à Alger, rue Hamani, rue Charras. Et moi, j'avais envie, j'avais vraiment envie d'avoir cette relation avec le lecteur, d'un lecteur qui serait avec moi dans le livre et qui serait vraiment présent tout au long du roman, qui serait dans cette rue, qui pourrait, et j'espère donner envie aux gens d'aller voir cette librairie qui existe toujours, qui est toujours au 2 bis.
Qui n'est pas fermée.
Qui n'est pas fermée. Moi, j'ai imaginé sa fermeture et je le dis d'ailleurs à la fin, je raconte, mais j'ai imaginé la balade parce que je pense sincèrement que les lieux sont importants dans l'imaginaire et l'idée du voyage et d'emmener le lecteur par la main. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai ouvert mon livre là-dessus et je le clôture là-dessus aussi.
Il y a aussi cette idée de mouvement, Alice Zeniter, à la fin de votre roman, c'est-à-dire qu'on ne dévoilera pas non plus le roman en disant cela, mais effectivement, on parlait des identités flottantes. Vous avez mentionné tout à l'heure, Kawtar Hadimi, que la fin du roman d'Alice Zeniter se finissait par cette idée que l'histoire ne s'arrêtait pas. Pourquoi insister sur cette idée de temporalité, à la fois de mouvement dans l'espace, mais aussi de mouvement dans le temps ?
Pour moi, il y avait deux choses. Une première qui était quelque chose de la romancière. Enfin, c'est extrêmement arbitraire de décréter une fin et de laisser les personnages à un point donné. Et c'est vrai que je détestais l'idée que ce point donné pourrait être interprété comme une arrivée absolue.
Ça y est, je me suis découverte.
Voilà, elle a franchi la ligne d'arrivée, tout va bien, à partir de là, la vie sera une sorte d'extension en ligne droite de ce point. Donc je voulais souligner ça, que le roman s'arrête, mais qu'une trajectoire de vie ne s'arrête pas. Et en même temps, c'est un parallèle qui est fait entre Naïma et l'Algérie, ou entre Naïma et un pays. Cette idée qu'on est mouvement, ou qu'on meurt, et que les choses ne sont pas immuables. C'est Ifren qui le dit à Naïma. Quand après l'indépendance on a commencé à avoir des problèmes, les gens qui ont dit alors ça veut dire que c'est foutu, même si indépendant on n'est pas heureux, le pays est foutu. C'est juste des gens qui ne voient pas que c'est une construction permanente et qui se détourne de l'effort. Et donc voilà, je voulais insister sur ça, sur un pays, un être, ça se construit et c'est une lutte et parfois c'est embêtant, mais parfois on y trouve nos richesses.
Il reste quelques secondes à peine pour évoquer juste ce point important. Vous dites, Alice Zeniter, que votre roman n'est pas un roman d'apprentissage, justement pour éviter cette idée d'être arrivé quelque part. Et pourtant, il y a quand même l'idée de l'apprentissage qui est essentielle dans vos deux romans. C'est celui de la lecture et des mots.
Moi, je pense sincèrement que la lecture, la littérature, les mots peuvent changer la vie de quelqu'un. Et je milite. Enfin, mon roman, c'est vraiment une ode à la littérature et revenir à ça, revenir au goût de la lecture. Et Dieu sait qu'en Algérie, où il y a en moyenne, je crois qu'il y a 40 librairies dans tout le pays, enfin, c'est d'une importance capitale dans un pays comme celui-ci.
Alice Zeniter.
Moi, je crois que sur les trois générations, il y avait aussi évidemment très très fort cette idée que la lecture...
Ou apprendre la langue.
Oui, et que la langue et que la lecture permettaient d'avoir une vision plus grande du monde. Quand on commence avec des paysans analphabètes, il est évident que le monde se réduit aux sommes des sensations. C'est un monde empirique, c'est ce qui est là, qui existe. À partir du moment où Hamid, lui, commence à lire, alors le monde s'ouvre. Il va lire Marx, il va lire énormément de choses, et tout à coup il a l'impression d'avoir des outils. Et à la fin, quand on finit avec Naïma, elle est en train d'écrire un texte qui retraverse grâce à l'œuvre de Lala, le peintre sur lequel elle travaille, toute une histoire de l'Algérie. Donc c'est, non seulement elle peut lire, mais elle peut écrire, et elle ressaisit quelque chose du monde, et voilà, je pense, il y a une déclaration d'amour à la littérature, un peu comme Proust. Du coup, la seule vie vécue, c'est la littérature. C'est quelque chose qui, moi, m'habite très très fort.
Ou un homme qui lit en vaut deux, comme vous dites aussi, Kaouter Hadimi. Merci beaucoup à vous deux, Alice Zeniter et Kaouter Hadimi. Je rappelle que vos romans sortent pour cette rentrée littéraire. L'art de perdre, c'est de vous, Alice Zeniter. Ce livre paraît aux éditions Flammarion, et Nos richesses, de vous, Kaouter Hadimi, est publié aux éditions du Seuil. Merci.
Merci. Merci.
France Culture, la grande table d'été, Géraldine Mosna-Savoie.
Et comme tous les jours, c'est l'heure de retrouver Romain Burel pour le disque du jour. Romain, bonjour.
Bonjour Géraldine. Aujourd'hui, direction Philadelphie, à la rencontre des rockers chevelus de The War on Drugs. Le groupe fondé en 2005 revient avec un quatrième album intitulé A Deeper Understanding. Un grand disque de fans de musique convoquant pêle-mêle Neil Young, Dylan, Springsteen ou Fleetwood Mac. A Deeper Understanding, c'est aussi un disque positif, contrairement à son prédécesseur, Lost in the Dream, sorti en 2014. À l'époque, le leader Adam Grand-Duciel bataillait sévèrement contre la dépression. Mais pour l'heure, je vous propose d'écouter Pain, le tout nouveau single de The War on Drugs.
Look away and dumb and old.
Deeper Understanding de The War on Drugs sortira vendredi. Le groupe sera en concert le 6 novembre prochain à Paris, au Bataclan, et le 7 novembre à l'Aéronef à Lille.
Merci Romain, à demain. Et maintenant, place à notre seconde partie, c'est le portrait du jour. Bonjour Sophie Fontanelle.
Bonjour.
Bienvenue à cette grande table d'été. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé pendant 15 ans au magazine Elle, vous écrivez désormais pour L'Obs, vous y tenez une chronique, La mode pour tous, vous avez créé le personnage de Fonel, vous êtes d'ailleurs un personnage, on peut le dire, sur les réseaux sociaux, extrêmement suivi, extrêmement influente. Et puis, vous êtes aussi évidemment écrivain, on vous doit notamment Sacré Paul, Grandir, L'Envie, La Vocation, et maintenant, on vous doit aussi ce nouveau livre qui apparaît pour cette rentrée littéraire, et c'est une apparition.
Je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Ce qui est tout le contraire. Par exemple, ce matin, avant de venir ici, je me suis maquillée. Je me suis mise un poudre sur le nez. Je me suis fait les yeux. Et en traversant Paris, je me suis aperçue que toutes les femmes faisaient la même chose. Pour le plaisir ou par politesse. Vous dites que je suis exceptionnelle. Ah oui, c'est vrai, je suis exceptionnelle. Toutes les femmes sont exceptionnelles, chacune à leur tour. Vous, là, vous êtes tout à fait exceptionnelle. Vos empreintes digitales sont uniques au monde, vous saviez ça? Vous êtes unique, nous sommes tous les deux uniques. Unique et irremplaçable.
Sophie Fontanelle, c'est un extrait de Baiser volé de François Truffaut que l'on vient d'entendre avec Delphine Seyrig, inoubliable, qui dit qu'elle est une apparition. C'est le titre de votre livre. Pourquoi ce titre, une apparition ?
Ça me bouleverse d'entendre ça parce que Delphine Seyrig, finalement, elle fait le pitch de mon livre, en fait.
Ça tombe bien.
C'est drôle. Moi, mon livre a l'air de parler des cheveux blancs. Et en fait, les cheveux blancs, on dit l'apparition des premiers cheveux blancs. Eh bien moi, un jour, quand j'étais à une terrasse de café, j'avais une mèche blanche quand j'avais 14 ans, j'ai couvert toute ma vie. Et j'étais à une terrasse de café, j'avais 53 ans, maintenant j'en ai 55, et j'ai vu passer une femme avec les cheveux blancs et longs. Et cette femme a été une apparition pour moi. Et ce jour-là, en la voyant, je me suis dit, mais combien faut-il que je voie de femmes belle, avec les cheveux blancs, parce que j'en avais déjà vu une à Los Angeles, qui revenait avec un skate sous le bras. J'en ai vu une au palais de Tokyo, pareil, que c'est que des endroits hyper chics, mais bon, on se refait pas, c'est la mode. Et je voyais ces femmes, j'ai dit, combien il faut que j'en voie pour comprendre que je peux m'autoriser ça. Et j'ai décidé ce jour-là, un, de me laisser les cheveux blancs, deux, pour me donner du courage, de le montrer sur les réseaux sociaux, parce que j'ai montré toute l'évolution sur les réseaux sociaux.
Et trois, peut suivre dans votre livre aussi, d'ailleurs, oui, par les photos.
Il y a des photos dans le livre. On a beaucoup hésité, parce qu'on se demandait si c'était de la littérature. Puis en fait, moi, j'ai vraiment poussé pour qu'on le fasse, de façon bien, j'espère. Mais je voulais aussi que les gens voient, parce que c'est quelque chose d'avoir laissé pousser les cheveux blancs sans couper les cheveux noirs, ce que j'ai fait genre à la Sophie Calle du pauvre. Et puis j'ai décidé d'écrire ce livre, de tenir un journal en fait de l'apparition de ces cheveux blancs, parce que je découvrais des tas de choses au fur et à mesure où mes cheveux poussaient.
D'où le parcours dans votre livre, un peu, beaucoup, passionnément, au fur et à mesure que vos cheveux blancs, Sophie Fontanelle, apparaissent. Mais vous avez dit cette phrase, Sophie Fontanelle, à savoir combien de temps il fallait, combien de femmes fallait-il que je voie pour prendre conscience. Mais finalement, on peut dire que toutes ces choses que l'on cache, quand Delphine Seyrig parle de politesse, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a ce problème du regard de l'autre. Et dans les anciens livres que vous avez écrits, dans vos livres précédents, on peut dire que vous mettez toujours les pieds dans le plat sur ce qu'on s'amuse, en fait, sur ce qu'on s'amuse ou ce qu'on cherche à cacher. L'abstinence sexuelle, on va toujours dire qu'on a eu une abstinence sexuelle pendant 2 mois. En fait, ça fait 2 ans. Que finalement c'est difficile de prendre soin de ses parents et finalement d'être le parent de ses parents. Il y a aussi la culpabilité d'avoir réussi, que vous évoquez d'une certaine manière dans La Vocation. Comment vous arrivez à trouver ces sujets qui font déclic, qui traversent toutes nos existences mais qu'on n'arrive pas à dire et pas forcément à raconter ?
Mais parce que je crois que le mensonge est partout sur les magazines féminins. Je veux pas avoir donné l'impression de les traiter de crétins parce que c'est pas ce que je pense. Je travaille dans des magazines féminins. Je sais à quoi ça sert. J'aime bien ça. Mais c'est tout le reste qui est une fausse idée de la femme. Et en fait, moi, je ne fais que dire ma réalité. Pourquoi elle est proche des gens? Évidemment qu'il y a des tas de femmes qui ont pas les cheveux blancs, qui le voudront pas blanc, etc. C'est pas la question.
C'est pas une prescription.
Non, non, du tout. Mais en fait, il y a une telle norme qu'en fait, dès qu'on arrive en disant, par exemple, vous parliez de l'envie, le livre sur l'abstinence. Bon, ben moi, j'ai première émission qui est une émission de radio que j'ai faite. Sur une énorme émission de radio française, j'arrive et le présentateur me dit, ben voilà, l'animateur dit, voilà, Sophie Fontanelle, vous, c'est complètement dingue, vous avez passé 12 ans dans l'abstinence, c'est quand même complètement dingue, et donc, quel courage vous avez d'en parler, etc. Et puis, il me parlait comme si j'étais une bête curieuse, enfin, il y avait vraiment un spécimen sur cette terre, et notamment en France, on l'avait, à Paris, et puis c'était moi. Et au fur et à mesure, son standard, et c'est là où on a compris que le livre allait être parmi les trois meilleures ventes de pendant des mois, quoi, c'est que tout d'un coup, les gens ont commencé à plus s'en en disant, mais moi aussi, moi c'est 12 ans, moi c'est 15 ans, des hommes aussi. Et en fait, on s'est rendu compte que, à la limite, on se demandait qui baisait, tellement il y avait des gens qui disaient, ben, moi aussi. Et les cheveux blancs, quand, par exemple, quand c'est sorti, il y a eu une vidéo qui a été faite, je travaille à l'Obs. Et donc, l'Obs m'a dit, est-ce que tu veux bien, pour appuyer un extrait que je leur avais donné du livre, qu'on fasse une vidéo. Et à la fin de la première journée, il y avait 1 million de vues de cette vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, ce truc, on se disait, bon, bah voilà, elle fait ça. Après tout, il y a beaucoup de femmes qui ont les cheveux blancs en France et dans le monde. Oui, mais ces femmes vivent, entendent depuis des années des choses sur leurs cheveux blancs. Que c'est sale, que ça vieillit, qu'on peut pas trouver de boulot si on a les cheveux blancs, que ça veut dire qu'on n'est pas dans la séduction. Alors elles sont très heureuses que quelqu'un arrive en disant, bah regardez, moi je l'ai fait, mais je vois pas du tout où est le problème en fait.
Mais effectivement, cette idée de partir de vos cheveux blancs qui apparaissent peut paraître très individuel, qui relève de votre goût, de votre vie, de vos préférences finalement, qui peut même paraître pour certains dérisoire parce que impoli aussi d'en parler, il vaut mieux en faire quelque chose d'accessoire qui n'est pas très intéressant, qui ne met pas le doigt sur les choses essentielles de la vie, mais finalement vous parvenez à faire de cette chose qui nous semble accessoire, à savoir une question de coloration, il faut le dire, une question de cheveux, ce qui paraît justement quelque chose de très superflu, quelque chose de complètement essentiel.
Alors ça, c'est quelque chose qui j'y pense beaucoup, évidemment, à chaque fois, parce que je prends des sujets qui sont a priori pas littéraires. Je me souviens que quand j'avais été à Canal+, j'avais écrit Le plus jeune métier du monde, où je racontais ce que c'était que le destin d'un animateur de télévision. Mais je l'avais fait d'une façon... on a l'air toujours idiot quand on dit ça, mais pour moi, c'était de la littérature. Après, il y a des tas de gens qui peuvent penser que ça n'en était pas. Et déjà, on avait dit, mais c'est pas un sujet pour la littérature, vraiment, la télé, c'est
sale. Mais c'est intéressant,
qu'est-ce
qui est un sujet pour la littérature?
Alors, c'est là où les gens, je comprends pas, donc je dois dire que je cherche un peu, je pousse toujours un peu loin les choses, parce que je suis sur Instagram, comme on dit maintenant, un influenceur, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui me suivent. Internationalement, j'ai travaillé dans un magazine féminin, j'ai aucun problème à me montrer pour mes 100 000 followers, je me suis foutu à poil, bon, j'avais un peu caché les zones pour pas me faire interdire d'Instagram pile au moment où je fêtais mon succès, mais je n'ai pas l'attitude de l'écrivain, voilà. Pour autant, j'en suis un, mais j'ai même pas envie de, c'est pas un truc que je veux revendiquer de ça, c'est tout, c'est comme ça, depuis que j'ai 9 ans, j'écris, et prendre des sujets qui, a priori, ne semble pas littéraire, j'arrive même pas, je vois très bien ce que les gens veulent dire, mais pour moi c'est justement ça qui est intéressant. Et ce qui m'énerve, et c'est là où c'est un petit peu, alors moi je suis jamais en train de me plaindre de sexisme, etc., jamais je fais ça. Mais quand même, c'est tentant, parce que quand Houellebecq prend des sujets qui n'ont rien de littéraire pour en faire de la littérature, on va pas lui chercher la petite, on la lui cherche, mais une femme, j'ai vu l'autre jour, il y a quelqu'un qui a mis sur Twitter, oui, Sophie Fontanelle a un livre à vendre. Non, j'ai un livre à faire lire, enfin c'est un petit peu différent. Puis vous savez, je prends tout ça, je pense qu'en fait, il faut s'en foutre complètement, quoi. Si on est différent des autres, si on a une autre place dans la littérature, je sais très bien ce qu'il aurait fallu faire pour avoir dans ce monde littéraire une certaine place. Je sais très bien avec qui il aurait fallu parler.
Quelle attitude avoir, quel sujet traiter, de quelle manière.
Oui, je sais très bien avec qui il faut aller déjeuner, je sais tout ça. Et puis je connais bien ce milieu, donc on m'en a parlé, on m'a dit, je sais très bien chez... Par exemple, on m'avait dit, moi je suis chez une maison d'édition qui s'appelle Robert Laffont, j'adore cet éditeur parce qu'il est libre. Et donc, on m'a dit, ah mais tu devrais aller chez Gallimard. Peut-être, mais moi j'aime bien chez un éditeur qui est libre et qui n'a pas d'a priori. Et en fait, tout ça, ça a abouti à un livre sur les cheveux blancs, où les mots, je l'espère, ont leur noblesse. Donc ils appartiennent au domaine de la littérature, mais où le sujet est tout à fait étrange.
Mais c'est ça qui est aussi intéressant, Sophie Fontanelle, c'est cette idée d'apparition, d'apparaître, d'apparence finalement, d'accessoire, de ce qui peut sembler accessoire et qui devient essentiel. Mais jusqu'où en fait, toutes ces moments, ces choses, ces éléments de surface semblent en fait complètement constituer l'identité.
Bah parce qu'en fait, les cheveux blancs, j'ai entendu, parce que évidemment, comme il y a eu cette vidéo qui a été tellement virale, et qui l'est encore, donc en fait, du coup, j'ai vu les commentaires. Et je les survole, parce que là-dedans, il y a des choses très 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 violentes par moments, mais quand même, je les survole, comme ça, pour me tenir informée. Et en fait, il y a cette idée que, mais c'est pas si important. Bon, c'est pas si important, mais toutes les femmes cachent leurs cheveux blancs. Et moi qui ai lu, comme plein de gens, je veux pas du tout, on le lit à l'école, le portrait de Dorian Gray, je raconte dans le livre qu'en fait...
Dorian Gray qu'on peut entendre de deux manières d'ailleurs, ce Gray.
Évidemment, mais moi j'y avais pas pensé. J'y ai pensé, enfin évidemment que c'est ça, mais sauf que j'y avais jamais pensé. Et en m'achetant le portrait de Dorian Gray, en lisant, parce que ça vient pas du tout de là, en fait, l'étymologie de Gray dans le livre, c'est pas ça, c'est plutôt sur le délabrement, mais sur d'autres raisons. Et en fait, en lisant le portrait de Dorian Gray, je me suis dit, mais les femmes, et encore une fois, celle qui est heureuse de se teindre en bleu, en blond, en tout ce qu'elle veut, mais évidemment, mais c'est génial, que chacun fasse ce qu'il veut. Mais pour autant, il y a une vraie question de ce qu'on cache. Et en fait, moi, quand j'avais les cheveux teints, de temps en temps, je voyais mes racines qui revenaient. Et je vivais ça comme une honte. C'était comme si le portrait de Dorian Gray, il n'était pas dans une autre pièce à vieillir à ma place. C'était moi-même, un autre moi-même, en dessous de moi, qui vieillissait à ma place.
Il y a le problème de l'exposition à l'autre et du regard de l'autre. Et sur soi.
Et donc, c'était horrible. Et maintenant que j'ai... vous savez, tout ça, tout est question de point de vue. Là, à partir du moment où j'ai laissé pousser mes cheveux blancs, ce blanc que j'ai vu arriver... était une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il est passé de mauvaise nouvelle à bonne nouvelle. Et que ça me donne l'air d'être plus âgé ou que ça. Moi, je m'en fiche, en fait. Comment te dire ? À certains, il faut un temps fou pour apparaître. Ceux-là, si nombreux, femmes et hommes. Pour ceux-là, si nombreux, femmes et hommes, la route est interminable. 10 photographies, comme celle dont je viens de parler, ne suffisent pas encore à les rassurer. Une vague d'incertitude balaie toujours sur le sable l'image acceptable qu'ils se font d'eux-mêmes. Les caresses, en les rassurant, les effraient. Et si elles étaient des mensonges ? La plupart du temps, ils ont le sentiment d'être au pire irregardables et, au mieux, invisibles. Dans les miroirs, ils ne peuvent tout simplement pas se voir, comme on s'exclame « Ah, celui-là, je peux pas le voir !» Sauf que là, c'est de soi qu'on parle. J'ai été comme eux. Il m'a fallu 53 ans, la perte d'un travail, des rides et des cheveux blancs, pour commencer d'être enfin l'heureuse femme sur la photo, la fortunée qui se reconnaît dans quelque chose d'admirable, et non plus son parent pauvre. 53 ans pour accepter un compliment, pour y voir l'intuition d'un clairvoyant. 53 ans pour oser me la raconter. Ce qui signifie oser la poésie et le lyrisme sans lequel aucun de nous ne peut embellir. 53 ans pour découvrir le lien entre l'indulgence et le courage, qu'être doux envers soi peut se révéler être un héroïsme. 53 ans pour comprendre que la plainte est stérile, que rendre les autres responsables de nos doutes est une facilité et qu'il y a mieux à faire. S'inventer, enfin. 53 ans pour découvrir qu'on ne plaît jamais à tout le monde. L'unanimité, c'est d'abord en soi qu'il faut la faire. C'est ballot tellement c'est simple. Les vérités les plus évidentes nous restent longtemps inaccessibles. Et enfin, à 53 ans, j'ai entrepris d'apparaître.
Sophie Fontanelle, vous venez de lire le début de votre livre. C'est le moment où cette idée d'apparaître apparaît également. Et finalement, vous travaillez tout au long de votre livre parce que les cheveux blancs, c'est comme une mythologie de Barthes finalement. C'est un signe qui dit beaucoup de notre époque, qui dit aussi un problème de notre époque qui est le fait de vieillir, le problème de l'âge. Et plus vous apparaissez dans votre livre, plus vous naissez finalement au fur et à mesure que vous vieillissez. C'est tout un paradoxe que vous travaillez.
Oui, parce qu'en fait, j'ai découvert que on lit les cheveux blancs à l'âge, ce qui aujourd'hui est un petit peu mis à mal par tous les Asiatiques qui, trouvant qu'avec leur peau, ça ne va pas bien, le blond se teigne en blanc. Mais on le lit à l'âge, mais les cheveux blancs apparaissent très tôt sur la tête des femmes qui vont avoir les cheveux blancs. Hier, j'ai croisé une jeune fille dans la rue, elle m'a dit « j'ai 23 ans », elle me dit « j'ai déjà des cheveux blancs ». En fait, j'en croise un peu tous les jours, des toutes jeunes comme ça qui me disent ça. Et donc en fait, c'est lié, c'est pour moi plus que lié à l'âge, c'est lié à la vie. C'est-à-dire qu'en fait, on refuse le fait que la vie vous entraîne vers des modifications. Et les femmes ne veulent pas se modifier. C'est pour ça que faut pas avoir de ventre, parce que faut pas se modifier, faut pas. Je parle même pas de être quelqu'un de gros, quelqu'un de mince, ou je parle même pas de ça, petit, grand. Je parle des modifications qu'on va avoir sur soi, les rides, les taches. Moi-même, j'ai jamais fait de chirurgie esthétique, mais j'ai retiré quelques taches parce que ça me dérangeait. Et puis après, je me suis dit, on va voir, si c'est pas atroce, je le ferai pas. Personne ne veut de ces modifications. Et là puisqu'il y a eu un livre célèbre qui s'appelait La modification, moi, j'ai travaillé autour de cette modification qui vient. C'est une des rares choses qu'on peut avoir de nouveau en soi quand on vieillit, c'est les cheveux blancs, en fait. Et plutôt que de le voir comme une déchéance, c'est intéressant de voir ça. C'est quand même quelque chose de très, très, très... C'est presque juvénile. C'est presque comme des cheveux de bébé, si vous voulez. Je trouve que c'est plutôt quelque chose de nouveau et de neuf.
En fait, il y a tout ce que vous projetez sur ce blanc. En fait, tout ce qu'on peut projeter, d'ailleurs, en fait, sur le blanc, ce serait intéressant de faire tout un travail autour de la couleur du blanc que vous évoquez et que vous travaillez dans votre écriture, Sophie Fontanelle. Alors, il y a le blanc du soleil, le blanc des vacances, le blanc des maisons grecques, des yachts. Il y a la nacre, le noir et blanc des vieux films, la perruque d'Andy Warhol, la station blanche à Paris. Et puis, c'est la virginité, le miracle. Ou au contraire, la dégénérescence et puis l'angoisse de la neutralité.
Oui, il y a tout ça, et c'est tout ça accolé à des a priori qui sont les cheveux blancs vont jaunir, les cheveux blancs ressembleront à des poils de cul, les cheveux blancs vous donneront un air triste, mauvaise mine. C'est complètement dingue, puisque le blanc, c'est justement quelque chose avec quoi on s'éclaire. Et donc moi, ça m'a. Par exemple, vous venez de citer les films en noir et blanc. Alors je raconte dans le livre que quand j'étais enfant, il y avait un film avec Jean Harlow et Clark Gable, mais moi j'ai jamais oublié ça parce que j'étais là et puis je dis la dame elle a les cheveux blancs, on me dit mais non elle a les cheveux blonds, et j'ai dit il y avait beaucoup de cheveux blancs dans ma famille, c'est pour ça aussi que je les reconnaissais, si je puis dire, et que ça me parlait, et je dis mais si, comment vous savez, puisque c'est en noir et blanc, et là ils me disent mais tu vois bien qu'elle est jeune. Et là, mon frère m'a dit, mais tu crois que Clark Gable, il va tomber amoureux d'une femme aux cheveux blancs? Donc en fait, il y avait cet a priori, jusqu'à ce que mon frère, des années plus tard, c'est-à-dire il y a 2 ans, quand je lui ai dit, je vais laisser mes cheveux blancs...
a trouvé ça formidable.
Il a trouvé que c'était une bonne idée, oui.
D'ailleurs, dans votre livre, Sophie Fontanelle, on voit aussi toute l'importance, il y a le regard sur soi que l'on pose, le moment où vous décidez finalement d'arrêter de vous teindre les cheveux et de peut-être de vous mentir à vous-même et de vous regarder face à face dans un miroir, comme ce portrait de Dorian Gray. Et puis, il y a aussi toutes les autres personnes que vous rencontrez, les regards posés sur soi par d'autres personnes. Vous rendez compte de certains commentaires sur les réseaux sociaux en jouer, d'autres très difficiles. Il y a aussi vos amis qui peuvent partager ou pas cette décision. Mais finalement, il y a toute cette idée de regard sur soi et sur l'autre qui est au cœur de votre livre.
Oui. Alors, il y a un truc très important à dire là, c'est que les femmes aux cheveux blancs n'ont pas droit au chapitre. Hein. Ça tombe bien, chapitre, livre. C'est ce que j'ai essayé de faire, leur donner droit au chapitre. On les entend pas s'exprimer. Et les hommes qui aiment les femmes aux cheveux blancs, on les entend pas non plus. C'est-à-dire que c'est pas seulement la femme qui est aliénée dans cette histoire, c'est l'homme aussi.
Et d'ailleurs, il y a cette anecdote dans cette rencontre dans votre livre, Sophie Fontanelle, de cet homme qui dit « Mais persuadez ma femme qu'elle se laisse pousser les cheveux blancs, je trouve ça magnifique. »
Ah, ça, c'est un homme que j'ai rencontré dans une boulangerie. J'avais à cette époque-là 3-4 cm de cheveux blancs. Il m'a dit « Est-ce que vous êtes en train de faire ce que je pense que vous êtes en train de faire ?» Je dis « Oui ». Il dit « Vous ne voulez pas venir chez moi dire à ma femme qu'elle serait sublime avec les cheveux blancs ?» Et je dis « Mais monsieur, votre femme, elle a envie d'avoir les cheveux blancs ?» Il me dit « Pas du tout. » Et je dis « Ben alors ?» Et il m'avait répondu « J'aimerais bien qu'elle ait envie de tout et même de ça. » Mais lui, il avait un problème avec sa femme. Mais après, j'ai revu cet homme parce qu'en fait, il habitait dans mon quartier. Et puis du coup, il m'a invité à prendre un verre. Enfin bon, c'est la vie. Et cet homme-là, on a discuté. Et puis moi, quand je faisais le livre, je lui ai dit « Voilà, j'écris un livre là-dessus, ça m'intéresse de parler avec vous. » Et il m'a dit « Écoutez, voilà, moi je me suis mariée, j'étais prof, j'ai épousé mon élève. » Et je me suis retrouvée avec cette femme. Et en fait, moi je vieillis. C'est lui qui m'a dit j'ai du ventre, j'ai presque de la poitrine, voilà. Et elle veut tout faire pour pas vieillir. Et donc il dit j'ai l'impression qu'elle m'abandonne. J'ai trouvé ça beau comme parce que c'est inattendu comme façon de voir.
Finalement l'abandon est de ne pas se laisser à l'abandon, de ne pas se laisser aller, ouais. Et de ne pas laisser advenir les modifications.
Exactement, mais je pense qu'il y a une vraie question sur l'abandon, sur le... Moi, quelqu'un m'a dit l'autre jour, en vacances, là, quelqu'un m'a dit, ok, t'as les cheveux blancs, ok, peut-être, bon, ok, c'est joli. Enfin, il admettait. Il me dit, mais c'est pas demain la veille qu'il y a un mec qui va prendre, il va te prendre, il va te secouer, il va te plaquer contre un mur et il va te secouer. Et je lui dis, bah, écoute, ça tombe très bien parce que à 55 ans, c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses. On se secouera plus tard, mais au début, c'est pas tout à fait comme ça que je vois ça. Ça va m'effrayer. Je ne veux plus faire de choses violentes. Je veux bien faire des choses grivoises, mais pas des choses violentes.
Les femmes, pour leur émancipation, s'alignent sur les hommes. C'est ça que je trouve très regrettable. J'aime pas du tout les suffragettes, les femmes deuxième sexe. Je trouve que la femme, elle est encore à la proto-histoire de la femme. Elle a tout à faire. Son histoire est à venir. Mais s'aligner sur l'homme pour faire reconnaître ses droits, c'est marquer le coup. C'est stupide. Comme si l'homme était le critère de l'individualité. D'un vrai naturel, pas du naturel... comment dire? Pas du naturel opprimé. Ce n'est plus le naturel. C'est en allant de l'avant à partir de notions très élémentaires comme l'éducation, en laissant les filles grandir comme les garçons, que la femme récupérera son naturel. Elle l'a perdu à cause de l'homme. Tout ça sont des valeurs grossières qui ont fait le pouvoir de l'homme. C'est les valeurs guerrières, le courage, etc. Il faut nettoyer tout ça.
C'est la voix de Marguerite Duras en 1967, Sophie Fontanelle, que l'on vient d'entendre. Marguerite Duras qui pointe du doigt ce que vous ne cessez de dire depuis le début, Sophie Fontanelle, à savoir cette injustice qu'il y a entre les hommes et les femmes à partir de ce qui peut nous paraître dérisoire, à savoir des cheveux blancs.
Oui, j'avais entendu j'ai entendu il n'y a pas longtemps cette intervention de Marguerite Duras. Et ce qui m'a, bon, d'abord, je pourrais dire chaque mot qu'elle dit. Je trouve, c'est vraiment ce que je pense. Et en même temps, si vous voulez, ça me permet de, ça m'interpelle sur cette question du féminisme. Parce qu'en fait, moi, j'ai tout, déjà être comme les hommes, j'ai jamais eu envie. J'aime pas dire que je suis féministe. Et à chaque fois, sur les réseaux sociaux, pareil, ils disent, elle veut pas dire qu'elle est féministe. C'est pas parce que je le suis pas. Mais par exemple, je suis célibataire, j'ai été abstinente, je suis chrétienne, je suis française, je n'aime pas dire tout ça.
En fait, c'est le je suis qui pose un problème.
C'est parce que je veux pas m'enfermer. Et surtout, ce que je dis dans le livre, quand je me suis laissé pousser les cheveux blancs, je me suis dit, je ne vois pas comment, enfin, en tout cas pour moi, je veux pas parler pour les autres, je veux emmener les hommes avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt. Moi, je pense que l'homme est tout autant à libérer que la femme. Donc, quand elle parle du naturel, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'elle dit, ça n'est pas le naturel qui vous opprime. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi un malentendu qui serait se laisser les cheveux blancs tout d'un coup pour être naturel comme on est bio. Mais c'est pas ça. C'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est soi, en fait? Et qu'est-ce que c'est que de se laisser aller à être soi? Et ce qu'elle veut dire, elle, c'est d'être complètement soi. Et
récupérer sa propre nature.
Être complètement soi. Si on enlève les injonctions de la société, faire des enfants, etc., il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Il y a des, être complètement soi, c'est pas forcément ce qu'on croit.
Depuis cet été, on a rencontré plusieurs personnalités qui sont venues nous dire leur amour de Marguerite Duras. Fanny Ardant nous a parlé de l'idée qu'elle était très attachée à l'attachement, à l'entêtement de Marguerite Duras. Hugo Bienvenu, un jeune dessinateur de BD, nous a dit qu'il avait appris l'importance d'une virgule grâce à Marguerite Duras. Et vous, que vous a appris Marguerite Duras, Sophie Fontanelle ?
L'importance d'une virgule aussi. J'ai suis allée, j'étais jeune journaliste au Matin de Paris, interviewer Marguerite Duras avec un journaliste qui la connaissait et qui était un journaliste en majesté. Moi, j'étais débutante. Et on est arrivé, ce journaliste en majesté, c'était chez elle, rue Saint-Benoît, et ce journaliste m'a complètement oublié. Il a parlé qu'à Marguerite Duras. Et Marguerite Duras a tout de suite vu, il avait presque honte que je sois coquette, etc. Mais Marguerite Duras, elle adorait que je sois coquette. Elle adorait que je sois cette jeune fille. Et en fait, chaque fois qu'il lui posait une question, par exemple, il lui disait, dans cet ouvrage, vous avez dit poète, par exemple, eh bien, elle se tournait vers moi et elle disait, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai dit poète. Et toutes les questions, toutes les foutues questions, elle les a retournées vers moi. Et c'est un truc que j'ai jamais oublié de ce qu'une femme est capable de faire pour une autre femme. J'avais une passion pour elle. Je faisais partie de ma vie et je n'aurais pas, comme beaucoup de gens, moi, je n'aurais pas, sans doute pas écrit si, d'abord, si j'avais pas lu Duras et si, j'ai, par exemple, des gens comme Charles Juliet parlaient d'elle, ils disaient, ici, il la citait, j'entendais des phrases comme ça, il disait, elle parle d'autorité, voilà. Ce qui est génial avec Duras, c'est qu'elle parle d'autorité. Alors, elle a pu dire des trucs, terribles, il y a la phrase de Desproges géniale, elle n'a pas écrit que des conneries, elle en a filmé aussi. On peut en rire aussi. Mais, c'est même pas pour ma génération, c'est un géant.
Mostrava esse caminho pra São Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho pra São Tomé. Saudade, 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 desse minha terra, São Nicolau. Saudade, 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 disse minha terra, São Nicolau. Quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho pra São Tomé. Saudade.
Merci beaucoup Sophie Fontanelle. On se quitte avec cette chanson de Cesaria Evora, Saudade. Est-ce que Cesaria Evora est importante pour...
Oui, c'est-à-dire que cette voix est gentille. Cette voix est douce et gentille et elle exprime quelque chose que je contiens. Et pour en venir à Duras, dans Les Petits Chevaux de Tarquinia, quelqu'un dit « Qu'est-ce qu'il attend ?» en parlant de quelqu'un. Et Marguerite Duras fait dire à quelqu'un, comme tout le monde, il attend l'occasion de la plus grande gentillesse.
Bien, merci beaucoup Sophie Fontanelle pour cette citation. Je rappelle que votre livre « Une apparition apparaît » aux éditions Robert Laffont. Bonne rentrée littéraire à vous.
Merci.
Et c'est la fin de cette grande table d'été de ce mercredi 23 août, mais vous pouvez la réécouter, la podcaster en allant sur le site de France Culture, à la page de notre émission ou grâce à nos réseaux sociaux.
Rendez-vous demain pour une grande table sur la question animale, malaise dans la culture animale, dans l'agriculture et animal-être à l'occasion de la sortie du film Petit Paysan d'Hubert Charuel et du livre V comme Vegan de Théo Rupton aux éditions Nova. Et en seconde partie, changement de décor avec le portrait de l'actrice Catherine Fraud qui a carte blanche pour la première édition des variations classiques d'Annecy. Mais avant cela, à 18h15, retrouvez Mélanie Chalandon pour du grain à moudre. Mélanie qui se demandera avec ses invités s'il faut chasser les voitures des villes. Et un grand merci bien sûr à l'équipe de la Grande Table, Anna Baron, Lila Bozès, Lily Corner, Laure Chastan, Romain Burel, Lise Combe à la réalisation et Dalia à la prise de son. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure de retrouver votre feuilleton documentaire de l'été, Estelle disparue, chapitre 8, épisode 3, par Michel Pomarède.